Christelle Rebière, le 18-20.
Le monde d'après Jean-Marc Four, la guerre en Ukraine est donc entrée dans sa deuxième semaine avec toujours une situation dramatique à Kharkiv au nord, Mariupol au sud. Malgré une nouvelle séance de négociations entre Russes et Ukrainiens à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, ce soir Jean-Marc, vous vous demandez ce qui pourrait faire bouger la société russe et par effet en chaîne Vladimir Poutine. C'est votre monde d'après.
Bon, à première vue, c'est chape de plomb. Impossible de miser sur un soulèvement de la société russe. La peur domine, la censure règne à Moscou. Les médias n'ont même pas le droit de prononcer le mot « guerre », on le sait, seulement celui d'opération spéciale. Et les médias indépendants, la radio Écho de Moscou, la télévision Dodge, s'autodissolvent aujourd'hui en estimant ne plus pouvoir travailler. Vladimir Poutine flatte le nationalisme en brandissant la menace occidentale, avec l'appui du patriarche de l'église orthodoxe. Bref, verrouillage maximum de la société. Mais, quand on y regarde de plus près, il y a des fissures dans l'édifice. D'abord, il y a des manifestations quotidiennes de protestation contre la guerre, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg. Alors, quelques dizaines, quelques centaines de courageux, de très courageux. Ça peut paraître microscopique, mais dans le contexte de chape de plomb, c'est déjà beaucoup. Il y a d'ailleurs eu de multiples arrestations. Ensuite, il y a un mouvement sur les réseaux sociaux russes via le slogan « Non à la guerre ». Et puis, il y a des oligarques proches du pouvoir qui manifestent leur désaccord avec cette invasion. Andrei Yakounine, Oleg Tinkov, Roman Abramovitch, qui cède son club de Chelsea à Londres. Autant d'hommes, de banquiers, de manias, des matières premières qui appellent à un arrêt des combats.
Oui, mais quand même, tout ça paraît marginal et bien loin de pouvoir faire basculer l'opinion publique russe quand même.
Oui, et il y a un autre paramètre qui est peut-être plus important à moyen terme, c'est le nombre de morts dans les rangs de l'armée russe. Pour comprendre, il faut faire un flashback, raconter une page d'histoire. En décembre 1989, donc il y a plus de 30 ans, l'Union soviétique se retire d'Afghanistan après quasiment 10 années de guerre. Plus de 110 000 soldats se replient après avoir échoué à mettre un terme à la guérilla afghane. Plus d'un million d'Afghans ont été tués, plus de 15 000 soldats russes. C'est un échec militaire pour Moscou. Et ce repli, on l'apprendra après, s'expliquait en grande partie par la colère des mères, des femmes, des sœurs des soldats russes morts au combat. Un déluge de courriers envoyés au comité central du Parti communiste au pouvoir à l'époque, à tel point aussi que sur le terrain en Afghanistan, les officiers russes n'arrivaient plus à convaincre les soldats de continuer à combattre. Eh bien, on peut assister à une répétition de l'histoire dans une formule accélérée. Les forces engagées par Moscou en Ukraine, 150 000 hommes, sont d'une ampleur assez comparable à l'aventure afghane. La guérilla urbaine des Ukrainiens entrés en résistance pourrait durer des mois. Et le bilan côté russe est déjà lourd. 9 000 morts russes, si l'on en croit Kiev. Bon, Moscou avance évidemment un chiffre beaucoup plus bas. 500 victimes. Mais même 500, c'est déjà très lourd en une semaine. En Afghanistan, à l'époque, c'était plutôt 30 morts russes par semaine. Si ce chiffre doit augmenter à ce rythme, la colère naîtra mécaniquement au sein des familles de soldats, a fortiori pour une guerre où, rappelons-le, on tire sur des hommes, des Ukrainiens qui sont parfois des cousins au sens premier du terme.
Oui, enfin là, vous faites quand même un peu de politique fiction. On n'y est pas,
Jean-Marc. Je vous l'accorde, ça peut prendre du temps. Mais ce que je peux vous certifier, c'est que ce scénario est envisagé par les Occidentaux. Il fait partie du pari occidental. Miser sur un tribut trop lourd à payer en nombre de morts pour l'armée russe et donc une montée en puissance de la grogne parmi les mères de soldats, y compris dans les campagnes. Vous savez, pour prendre un cliché, c'est babouchka fidèle au régime. D'ailleurs, on peut mettre ce scénario un peu en écho aux propos tenus hier soir par Emmanuel Macron. Le président français a lourdement insisté sur la différence entre Poutine d'un côté, montré du doigt comme le responsable de la guerre, et la Russie, le peuple russe, de l'autre côté, contre lesquels nous n'avons rien, nous ne sommes pas en guerre. C'est peut-être une façon d'inciter les élites du pays, même l'entourage de Poutine, à écouter la réaction de la société russe, à ne pas défier leur propre peuple. Alors reste évidemment un obstacle, et ça, il est de taille, c'est Vladimir Poutine lui-même. Et c'est là où la comparaison avec le retrait d'Afghanistan s'arrête. À l'époque, en 1989, l'homme qui accepta la défaite, qui présida au repli d'Afghanistan, c'était qui ? Mikhail Gorbatchev, l'homme de la glasnost, de la perestroïka, de la fin de l'Empire soviétique. Poutine, lui, c'est tout l'inverse. Il veut précisément reconstruire cet empire, même au prix de milliers et de milliers de cercueils dans les rangs de son armée.